Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau...
C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez...
Martineau.
Cube Radio. Cube Radio.
On revient sur cette méchante bombe qu'a lancée la CBC. Donc, Pierre-Éliott Trudeau, qui était prêt même jusqu'à saboter l'économie du Québec pour discréditer le gouvernement péquiste qui était récemment élu. Nous allons parler avec l'historien Frédéric Bastien. Bonjour, Frédéric.
Oui. Bonjour, bonjour, M. Martineau.
Bonjour. On se souvient dans les années 70, là, lors de la crise d'octobre, avec la loi des mesures de guerre, où on emprisonnait des gens sans vraiment porter d'accusation. Il y a un journaliste qui avait abordé Pierre-Éliott Trudeau, qui avait dit « Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour justement mettre les bâtons dans les roues des felkis? » Et il avait regardé Pierre-Éliott Trudeau, c'était une de ses phrases fameuses, il a dit « Just watch me ». Just watch me, en disant je suis prêt à faire tout, la fin justifie les moyens. Ben, c'est un peu ce qui se passe là, actuellement. Là.
Oui, oui, absolument. Et là, donc, ce qui est sorti hier grâce à la CBC, c'est très intéressant parce que si on prend justement l'année 1970 pour revenir un peu en arrière, parce que le document dont la CBC a fait état date de 1976, juste après que le PQ soit arrivé au pouvoir, mais si on se reporte à l'année 70 pour prendre des choses un petit peu avant, il y avait eu le fameux coup de la Brinks, là. Je ne sais pas si ça vous dit.
Oui, oui. Moi, je connais, mais quand même, vous pouvez raconter ça aux plus jeunes là, qui ne connaissent pas ça.
Oui, c'est ça. Alors, on était dans l'élection de 70. C'est la première fois que le PQ briguait les suffrages. Et là, on avait fait une espèce d'opération théâtrale là, pour montrer un camion de la Brinks avec des fonds qui étaient déplacés vers Toronto parce que là, évidemment, le séparatisme inspirait une crainte pour le monde des affaires, et puis ça allait être terrible. Alors, il y avait déjà une campagne là qui était faite depuis déjà plusieurs années pour dire aux Québécois là le séparatisme, pour le dire un peu comme à Jean Chrétien, c'était terrible, ça allait avoir des conséquences terribles. Et là, Trudeau, suite à l'élection du PQ, évidemment, est pris de surprise. Hein. C'est la panique à Ottawa. Hein. Trudeau... Au printemps de 1976, avait fait une autre déclaration fameuse, le séparatisme est mort, avait-il dit. Alors, 4 mois plus tard ou 5 mois plus tard, boum, le PQ était élu majoritaire. Alors là, Trudeau était en pleine panique. C'était la panique à Ottawa. Et donc là, les révélations qu'on a de la CBC, comme vous l'avez dit, donc... Nous apprennent que là, M. Trudeau avait élaboré ce plan.
Mais c'est ça, la question qu'on se pose, c'est que jusqu'où c'était vraiment une stratégie, là, pensée froidement, ou alors c'était une idée qui a passé à travers la tête comme ça?
Ben, ça, c'est ce qu'on sait pas. Alors là, il y a eu Marc Lalonde, l'ancien ministre et bras droit de Trudeau, qui est sorti, qui a été interviewé, qui a dit non, ça s'est pas passé comme ça, M. Trudeau a pas dit ça. Alors là, ce qu'il faut dire d'abord, c'est qu'on a un document écrit, daté, fait par l'ambassadeur américain. Donc, c'est Paul Desmarais qui a dit à l'ambassadeur américain, « Monsieur Trudeau m'a dit, puis-tu éliminer des emplois au Québec, là, faire monter le chômage, et puis ça va permettre de nuire au gouvernement de M. Lévesque et au mouvement indépendantiste. » Alors, c'est clair que ces propos-là ont été tenus. L'ambassadeur américain l'a consigné dans un rapport secret qui a été envoyé à Washington, un gouvernement ami du Canada, un gouvernement opposé au nationalisme québécois. Donc, on n'a aucune raison de douter de l'authenticité.
Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est est-ce que, effectivement, M. Desmarais, Paul Desmarais senior, a pris la balle au bon et a obtempéré, a embarqué dans le plan ou non? Ça, c'est pas clair.
Voilà, exactement. Alors là, il y a Power Corporation qui dit non, on n'a jamais fait ça. Évidemment, M. Desmarais senior n'est plus là. Et ce qu'on ne sait pas non plus, c'est ce que vous disiez il y a quelques instants, c'est de savoir est-ce que ça a vraiment été mis en application? Est-ce que c'est seulement bon, Trudeau a songé à ça, il a voulu faire ça, mais après ça, il s'est dit au fond, c'est pas une bonne idée ou pour X raisons, je peux pas le faire. Alors ça, on ne sait pas. Et là, moi, je pense que je lance faut lancer la balle à M. Trudeau, fils, cette fois-ci, hein, Justin. Alors, souvenez-vous, M. Martineau, il avait dit, suite au déboulonnage de la statue de Johnny McDonald l'été dernier à Montréal, il avait dit, il faut questionner le passé de nos anciens premiers ministres, évidemment Johnny McDonald et tout ce qui avait été le traitement réservé aux Autochtones sous Johnny McDonald. Mais il avait dit, mais incluant mon père, il faut questionner le passé de mon père. Alors là, le problème avec ça, c'est que quand vous voulez avoir les archives de Johnny McDonald pour montrer qu'il y a des choses pas correctes qui se sont faites avec les Autochtones, vous n'avez aucun problème. Vous pouvez aller à Ottawa, puis les fédéraux vont vous donner accès à toutes les archives de Johnny McDonald. Là, vous voulez savoir ce qui s'est passé à l'époque de Pierre Trudeau. Et là, les fédéraux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous empêcher d'avoir certains documents. Donc, et moi, je le sais par expérience, j'en ai fait des demandes d'accès à l'information. Alors là, M. Trudeau, fils, a l'occasion de passer de la parole aux actes. Il veut qu'on questionne le passé, incluant son père. Ben voilà, il pourrait nous laisser accès aux archives. Et là, on pourrait justement répondre à la question. Est-ce que c'est un projet momentané que Trudeau a eu, puis finalement, ça n'a pas eu de suite? Est-ce que ça a été plus sérieusement étudié? Là, on sait juste qu'il a pensé à ça, puis qu'il en a parlé. Ça, on est sûr. Mais le reste, on ne sait pas. Puis c'est ça la vraie question en ce moment.
Mais je me fais l'avocat du diable, et le mot est bien choisi, là. Je me fais l'avocat du diable pour les fins de la discussion, OK? Vous êtes premier ministre du Canada. Votre rôle, c'est de protéger le Canada. Est-ce que ça ne fait pas partie, comment je pourrais dire, là, ça fait partie de la game? C'est certain que le premier ministre du Canada va tout faire pour essayer de garder son pays uni.
Ben moi, je vous répondrais à ce moment-là que si on est dans la fin, justifie les moyens, puis que dans les moyens, il y a celle d'infliger du chômage et de la misère économique aux Québécois pour les garder dans le Canada, on peut sérieusement se questionner sur la légitimité de la fin, c'est-à-dire garder le Québec dans le Canada au prix de quoi? D'affamer les Québécois, là, j'exagère en disant affamer.
Non, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens, si jamais le plan avait été mis à exécution, ce qu'on ne sait pas, mais il y a peut-être des gens qui auraient perdu leur emploi parce qu'ils auraient été des pions sur un échiquier, là. C'est un jeu politique qui se jouait à 25 000 pieds au-dessus de leur tête, et eux, ça aurait eu des impacts importants dans leur vraie vie, là. Ils perdraient leur emploi parce qu'il y avait eu une guerre idéologique entre deux clans. C'est complètement délirant, là.
Oui, c'est délirant, mais moi, je veux revenir à votre question. Est-ce que vous êtes premier ministre du Canada? Est-ce qu'il ne faut pas, justement, tout faire? Alors, une chose, c'est d'être convaincu, comme premier ministre du Canada, que c'est mieux pour le Québec d'être dans le Canada, et là, de tout faire pour convaincre les Québécois de rester dans le Canada. Ça, c'est parfaitement légitime. Bon, puis évidemment, dans la joute politique, bon, il y a toutes sortes de façons de faire avancer ces idées on va accuser les adversaires d'avoir fait ceci. On va faire toutes sortes de choses. Mais ça, c'est légitime. Ça fait partie de la dynamique politique. Personne ne va remettre ça en cause. Mais quand vous êtes rendu à dire, là, on va saboter l'économie pour convaincre que c'est mieux d'être dans le Canada, mais là, on peut vraiment... Là, je m'excuse, on sort du débat politique au sens traditionnel, je sais pas comment le dire, mais on est dans un autre paradigme, autrement dit.
Oui, et bon, Paul Desmarais père, on sait que c'était un fédéraliste convaincu. D'ailleurs, la presse, il y a beaucoup de gens qui disent que c'était déficitaire depuis des années, mais il la gardait en vie parce que pour lui, c'était pour faire de la propagande fédéraliste. Et d'ailleurs, la question que je me pose, parce que là, Valérie Gramont a été nommée à la presse, éditorialiste en chef de la presse, et elle a dit dans son papier que pour avoir ce job-là, vous devez faire un genre de profession de foi fédéraliste, donc ça fait partie des conditions pour être nommé éditorialiste en chef et même éditorialiste à la presse, c'est d'avoir des convictions fédéralistes. Et je me dis, pourquoi elle continue comme ça alors qu'à toute fin pratique, là, la presse n'appartient plus à Power Corporation? Il pourrait avoir une autre ligne éditoriale, il pourrait ne pas avoir de ligne éditoriale. Pourquoi il continue? Est-ce que ça faisait partie d'une des conditions de devenir un OSBL? Je sais pas, je me pose la question.
Non, mais il y a une vraie question derrière ça. Mais là, moi, j'ai regardé rapidement la presse ce matin, j'ai pas vu beaucoup de choses sur en fait, je crois pas avoir rien vu sur cette histoire de M. Trudeau et de Paul Desmarais, mais ça m'a peut-être échappé, mais... Mais oui, vous soulevez une vraie question, mais c'est clair que Paul Desmarais était, je veux dire, un agent propagandiste de la cause fédéraliste au Québec. Ça, c'est très, très clair, là, et puis depuis des années.
Et lui, il était tellement riche, la presse, et que, comme on dit, c'était du screening, c'était de l'argent de poche. Là. Lui, il gardait la presse en vie pour une raison, pour pouvoir faire de la propagande fédéraliste. Et les fils, quand ils ont hérité de la presse, ils ont dit, ben là, ils ont gardé les chiffres, ils ont gardé les colonnes, c'est pas rentable, nous autres, on s'en fout de la propagande. Oh, bon, on se débarrasse de la presse, mais comment ça se fait que la presse tient encore à être fédéraliste? C'est ça que je ne comprends pas. C'est une, ben, c'est une question à poser.
Ben, c'est ça, puis il faut la poser aussi. Bon, justement, ils reçoivent des dons en plus de ça, donc pour survivre, c'est ce qu'ils ont le droit, là, c'est parfaitement correct. Oui. Mais la question est effectivement très légitime. On pourrait s'attendre à ce que maintenant ce média-là ait une perspective un peu plus élargie.
Ben là, oui.
Au niveau de sa page éditoriale, absolument.
Là, c'est spécial, mais merci Frédéric Bastien. J'attire l'attention des gens d'aller lire votre texte que vous avez publié, un long texte fort intéressant. Vous posez d'excellentes questions sur votre page Facebook. Frédéric Bastien, historien et professeur. Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci, M. Martineau. Au revoir.